Alors ce matin, je vais juste allumer mon micro. Ce matin, le message se trouve dans l'Évangile de Matthieu et on est au chapitre 16. Et comme notre frère a lu tantôt, il a lu les versets 1 à 4, mais le verset important ici, c'est le verset 3. Et au verset 3, on peut lire « Ô vous », c'est Jésus qui parle, hein? « Ô vous hypocrites, vous pouvez bien discerner l'apparence du ciel, mais ne pouvez pas discerner les signes des temps. Quand j'étais plus petit, ça a déjà existé, là, je me souviens que mes parents me disaient, ou mon père me disait plutôt, « Ah, le soleil est orange, le ciel est orange, il va faire beau demain. » Et c'est rare qu'on se trompait parce qu'habituellement, il faisait beau. Et ça m'impressionnait qu'on pouvait dire ça, puis je comprenais pas. Mais dans le temps de Jésus, les pharisiens puis les sadducéens, c'était les deux principaux groupes hein, religieux de l'époque. Et imaginez-vous, ces gens-là, ils exigeaient de Jésus un signe spécial qui vient du ciel. Puis j'imagine un peu qu'est-ce qu'on peut faire des fois nous-mêmes lorsque quelqu'un se prétend soit un prophète ou ben quoi que ce soit. Ben prouve-moi-le. Prouve-moi-le que tu es prophète. Et là, un peu ce qu'il disait à Jésus, ben prouve-nous que tu es le Fils de Dieu. Mais ce qu'il ne savait pas, ou il le savait, c'est qu'ils avaient déjà reçu plusieurs signes. Et l'un après l'autre, qui venait du Christ lui-même, le Christ, leur Messie. Et j'ai quelques exemples ici dans Matthieu. Vous pouvez prendre ça en note là, dans votre bulletin. Là, vous avez l'endroit où vous pouvez prendre des notes. Dans Matthieu 14, hein, versets 15 à 21, ils ont mangé. Le Seigneur Jésus, c'est-à-dire, a donné du pain à 5000 personnes en multipliant 5 pains et 2 poissons. Puis on dit qu'on a ramassé des corbeilles de pain et de poisson qui restaient. Un peu plus loin, dans Matthieu 14, 22, 33, Jésus lui-même a marché sur les eaux, sur la mer de Galilée. Ensuite de ça, un peu plus loin encore, il a guéri un grand nombre de personnes qui l'avaient juste touché. Matthieu 15, verset 21, il a guéri la fille d'une Cananéenne. Ensuite de cela, on peut dire qu'il a guéri aussi un grand nombre de personnes, dont des aveugles de naissance. Hein, aujourd'hui, on dit qu'on fait croire qu'on fait des miracles, mais il n'y a jamais un aveugle de naissance qui a recouvert la vue. Absolument pas. Ensuite de ça, il a guéri des sourds et muets, des gens qui ont été mutilés, c'est-à-dire handicapés, et bien d'autres choses que le Seigneur Jésus a faites. Et on voit ça dans Matthieu 15, versets 29 à 31. Ensuite de ça, une autre fois, il a donné à manger à 4000 personnes lors d'un deuxième miracle, en multipliant encore une fois 7 pains et quelques poissons. Et on lit ça dans Matthieu 14, versets 15 à 21. Un signe après l'autre leur ont été donnés à ces sadducéens-là, à ces pharisiens-là, incrédules, hypocrites, comme Jésus leur dit, qui, ces signes-là, démontraient que Jésus était vraiment le Messie. Qu'est-ce qu'il leur fallait de plus? Mais là, on lui demande un autre signe. Fais-nous un autre signe. Matthew Henry, c'est un grand commentateur. Hein? Il a écrit un commentaire sur la Bible en entier. Et dans son commentaire, Matthew Henry dit ceci. Ces gens-là voulaient un signe du ciel, mais non pas parce qu'ils auraient cru en Jésus malgré ça, non, ils voulaient un signe du ciel et ainsi ils pourraient dire que ce signe-là venait de Satan. Parce qu'ils l'ont dit peu auparavant, tu fais ces choses-là au nom de Satan, et Jésus leur dit comment Satan peut-il combattre Satan? Ils voulaient accuser Jésus d'être le diable. Ils voulaient prouver que Christ œuvrait pour Satan et non pour Dieu. Quel blasphème! Et là, Christ leur dit, dans Matthieu 16, verset 4, « Une génération méchante et adultère recherche un signe. Et il ne lui est donné aucun signe, seulement le signe du prophète Jonas. » Le signe du prophète Jonas était la résurrection de Jésus d'entre les morts. Regardez bien ce qu'il dit au verset 40, Matthieu 12, 40. « Car comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Et là, J. Vernon McGee, qui est un autre commentateur, nous dit ceci. « Ainsi, Jonas préfigure la résurrection de Christ en sortant du ventre de ce monstre marin-là, comme Christ est ressuscité physiquement du tombeau. » La résurrection du corps mort de Christ, c'est le seul signe qui leur a été offert. Et là, on arrive au texte de ce matin, et là, Jésus leur dit, « Oh, ma gang d'hypocrites! Vous pouvez bien discerner l'apparence du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner le signe des temps. » Ces gens-là pouvaient indiquer ce que serait le temps le jour suivant, rien qu'en regardant le ciel, mais ils étaient trop aveugles spirituellement pour comprendre les signes, les miracles que le Christ faisait parmi eux. Et c'est la même chose aujourd'hui en 2018, bientôt 2019. Il y a des signes tout autour de nous qui pointent vers le fait que nous vivons près de la fin des temps. Fin du monde, appelez-le comme vous voulez. Mais la fin des temps, telle que nous le connaissons. Et là, je veux juste faire un petit aparté, là. C'est que le Seigneur Jésus a un signal donné. Seulement le Père connaît ce temps-là. Il va venir vers nous. Il ne touchera pas à terre, il va être au ciel, dans le ciel, dans les cieux, ce qu'on peut voir, là. Puis nous, les chrétiens, né de nouveau, on va aller à sa rencontre, ainsi que tous ceux qui sont morts en Christ. Et là, on va être avec lui pour l'éternité, mais sur la terre, il va y avoir ce qu'on appelle le début des grandes tribulations, pendant 7 ans. Et après cela, il y aura le règne de 1000 ans, et là viendra le jugement dernier. La terre va être détruite ensuite, c'est-à-dire 7 ans avant, va être envoyé à l'enfer avec toutes ses anges, ces anges démoniaques. Et ensuite de ça, après ça, nous allons aller vers le Seigneur dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je referme la parenthèse. La deuxième venue de Christ approche rapidement. Autrement dit, la fin n'est pas loin. Ce qui est étrange, c'est que de nos jours, malheureusement, il y a très peu de prédications sur le sujet. Je vais vous dire une chose, c'est assez aventureux d'aller passer Apocalypse 4 de prêcher sur l'Apocalypse. Premièrement, c'est pas certain que tout le monde va comprendre parce qu'il y a des grandes explications, mais il faut toujours se dire que la parole de Dieu a été écrite pour des gens comme nous. Et à travers cette parole-là, qui est une bénédiction, hein, à la fin on lit « Bienheureux ceux qui lisent justement le livre de la fin, l'Apocalypse », il y a des choses qu'on doit chercher. On doit demander au Seigneur de nous éclairer, mais de la bonne manière. Donc, je suis rendu où, là? Il y a peu de personnes qui prêchent, peu de pasteurs qui prêchent sur le sujet. Par contre, si on retourne dans les années 50-60, c'était un sujet, même 70, c'était un sujet qui était assez populaire. Billy Graham finissait chacune de ses croisades par un sermon sur le signe de la fin des temps. Mais aujourd'hui, il y en a très peu de prédicateurs qui le font. C'était à souligner, et puis même pour moi, lorsque j'ai lu ce passage-là, je me suis dit, ouais, moi aussi, il faudrait que je prêche un peu plus sur l'Apocalypse. Alors, donc, je veux obéir au Seigneur, et puis il y a des choses qui vont être prêchées sur l'Apocalypse prochainement. Donc, mais ce matin, en 2018, je nous pose cette question-là. Celle que Jésus a posée, a dit, « Ne pouvons-nous pas, nous, ici, discerner les signes des temps? » Pourquoi on ne peut pas voir les signes des temps? C'est quoi qui nous dérange? La vie, hein, comme on dit, ça fly. Ça évolue. Il y a tellement de belles choses électroniques, toutes les belles bebelles du monde. On n'a pas le temps de penser à ça. Hein? Qu'est-ce qui nous empêche de voir la fin des temps, comme je vous expliquais tantôt, lorsque le Seigneur va apparaître et qu'on va aller à sa rencontre, qu'est-ce qui nous empêche de dire que la fin est proche? Chaque signe indique que le temps arrive bientôt. La fin est proche. Mais avant de continuer, je veux juste prendre un temps pour mettre le temps dans le Seigneur. Père éternel, ce matin, j'aborde un sujet qui est, pour certains, difficile à comprendre, pour d'autres, peut-être un peu plus évident. Mais ma prière, c'est que tu puisses unir nos cœurs, qu'on puisse discerner justement que la fin est proche, dans un but surtout, celui d'apporter le message de la parole de Dieu à ceux qui ne te connaissent pas personnellement. C'est ça ce matin qui est le but du message. La fin est proche. On ne veut pas voir nos êtres bien-aimés autour de nous être perdus, Seigneur. Donc, qu'avec beaucoup d'amour, Père, et avec beaucoup de sagesse, que tu puisses, Seigneur, à travers ma voix, parler à cette Église, Seigneur Dieu, à tous ceux qui sont rassemblés ce matin, et à tous ceux qui vont écouter le message par l'intermédiaire de l'Internet, sur le site web. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit glorifié par Jésus, je te prie. Amen. Le premier point que je veux juste dire, le premier signe que la fin est proche, c'est l'augmentation du paganisme et un détournement, qu'on pourrait dire, loin de Christ dans le monde occidental et ailleurs. Faites l'expérience aujourd'hui. Demandez à des jeunes qui est Jésus. Et Mathieu peut peut-être nous confirmer ça, du fait que...
Quand je dis on était 13, donc 3 n'avaient jamais entendu parler de la Bible, ou de Jésus, ou de Dieu.
Trois qui n'avaient pas entendu parler. Wow! Je vais donner des statistiques qui sont pas récentes, mais quand même, vous allez pouvoir vous imaginer qu'aujourd'hui, c'est encore pire. Le USA Today a publié un article qui a fait la couverture, qui était intitulé « Un sondage, aujourd'hui, davantage d'Américains s'éloignent de la religion ». Donc, aux États-Unis, puis c'est probablement la même chose chez nous, autrement dit au Canada, les gens abandonnent le christianisme, ou les gens ne connaissent pas le christianisme. Et je vais vous donner juste un pourcentage dans des États aux États-Unis qui déclarent, des gens qui déclarent qu'ils n'ont aucune religion. Dans l'État de Washington, c'est 25 % des gens qui ont été apportés dans le sondage qui ont dit qu'ils connaissaient, qu'ils n'avaient aucune religion. Au Vermont, c'est pas loin d'ici, 22 % Colorado, 21 % l'Oregon, 21 % Nevada, 20 % Wyoming, 20 % Californie, 19 % Ça démontre vraiment que la génération des années 70 et 80, 60 même, je devrais dire, font partie de ceux, moi j'appelle ça ceux qui s'adorent eux-mêmes. Ils sont leur propre Dieu. Au lieu d'être assis à l'église le dimanche matin. Hébreux 10, 25 dit ceci. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je peux l'appliquer à deux choses. Autrement dit, je peux dire à mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, abandonnez pas votre assemblée, même si vous êtes assis là aujourd'hui. Abandonner son assemblée, ça veut dire s'asseoir et rien faire. Mais ça veut dire aussi, qu'est-ce que Hébreux nous enseigne, de façon à ce que les gens quittent les églises. Et là, la fin arrive. Dans Romains 1, 25, on peut lire ça, puis après ça, je vais vous lire Romains 1, 22. Romains 1, 25, Paul dit, eux autres, c'est cette génération-là qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Quand je dis cette génération-là, c'est des générations et des générations et des générations en arrière. Hein? Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu de servir et d'adorer le Créateur. Ils se sont fait eux-mêmes, ils se sont dit eux-mêmes des dieux au lieu d'adorer le Créateur, Dieu qui est béni éternellement, Paul dit. Amen. Un peu plus haut, à Romains 1, 22, il dit « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » C'est cette génération-là qui influence, qui ont influencé les temps, les années 60, 70, 80. Puis là, aujourd'hui, on a la suite. Des enfants qui ne connaissent pas Jésus. Noël, c'est la fête des cadeaux. L'action de grâce, c'est pas pour rendre grâce, c'est on va manger de la dinde ou on va manger du jambon.
Qui est bon.
Qui est bon. On rend grâce pour ça. Puis à part que c'est des chocolats. Christ nous dit que le véritable amour chrétien va disparaître dans le monde occidental, quand la fin des temps s'approcherait. Et c'est ce qu'on voit. Matthieu 24, verset 12. « Et parce que l'iniquité abondera, parce que le péché va abonder, l'amour agapé, hein, l'amour sans condition de beaucoup se refroidira. » Cette génération-là, là, des années 60, 70, j'ajouterais même 50, je fais partie de celle-là, est aujourd'hui âgé entre 51 et 71 ans, mais savez-vous quoi? Elle nous a menti. Elle nous a amenés vers un autre Dieu. Cette génération-là a dit que vous pouviez partir communier avec la nature, hein, le mouvement hippie, la drogue, et que c'est meilleur que d'aller à l'église. Cette génération-là, dont l'esprit est embrouillé par les drogues, ils nous ont menti. Je parle de ceux qui ne sont pas sauvés, là. C'est un mensonge. C'est un grand mensonge. Et Cyprien, qui est un évêque au troisième siècle, de 200 à 258 après Jésus-Christ, a dit ceci. « Si vous n'avez pas l'Église pour mère, vous ne pouvez pas avoir Dieu pour père. » Si vous n'avez pas l'Église pour mère, vous ne pouvez pas avoir Dieu pour père. Cet évêque-là, il était en Afrique. Il est mort, autrement dit, il a été persécuté. Il est né, il a été le pasteur, c'est-à-dire de la plus grande église en Afrique, dans la ville de Carthage. Aujourd'hui, c'est Tunis. Et je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est peut-être ancien ce qu'il dit, mais c'est ça. Cyprien s'est opposé à l'évêque de Rome dans ce temps-là, qui n'était pas encore un pape, là, en plaidant pour une autorité égale entre tous les pasteurs. Parce que l'autorité, ce n'est pas un homme, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et partout où ce que l'homme a pensé, il a laissé sa trace. Et on se rappelle toujours, c'est-à-dire qu'on se le rappelle toujours, pour sa position forte sur la discipline dans l'Église. De plus en plus, là, il n'y en a plus de discipline dans l'Église. On est en train de se faire jouer un tour par le monde. C'est lui-même, Cyprien, qui a identifié l'Église locale. Il a appelé ça, lui, l'Église qui est visible. L'Église universelle, on ne peut pas la voir, elle est partout. Mais l'Église locale, on la voit, on est chez nous ici à Hawkesbury. Et je suis convaincu, frères et sœurs, qu'on a besoin d'une génération d'enfants de Dieu puis de prédicateurs évangéliques qui vont être stricts selon ce que la parole de Dieu enseigne sur la discipline de l'Église. C'est rendu effrayant comment large qu'on est rendu. Et je le dis encore avec les mots de Cyprien, puis même Jean Calvin le dit, celui qui n'a pas l'Église pour mère ne peut pas avoir Dieu pour père. Je l'ai dit tantôt, Cyprien, c'est un martyr de la foi. Je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit que nous devons rester, on doit demeurer dans notre église locale, à moins qu'elle enseigne des faussetés. Et je suis d'accord avec lui et Jean Calvin sur si l'église n'est pas ta mère, Dieu n'est pas ton père. Les gens qui disent que nous devons quitter notre Église sont des menteurs. Viens chercher la foi ailleurs, non. Les gens qui nous disent qu'ils sont chrétiens, qui ne sont jamais là le dimanche matin. Je parle de ceux qui n'ont pas de raison valable. Hein, il y a des bonnes raisons, là. Mais, t'es où pas? Ça se dit chrétien, mais t'es où pas? L'Église, c'est si je le tente, puis si ça me tente. Ou bon, je me sens un peu coupable, ça fait deux semaines que je n'ai pas été, puis je vais. C'est rough, c'est dur un matin d'entendre ça. Mais c'est vrai. Un christianisme sans engagement dans l'église locale, là, c'est un signe des derniers jours. C'est un mensonge de Satan. Frères et sœurs, comme Jésus l'a dit, ne pouvons-nous pas discerner les signes de la fin des temps? Le deuxième point que je vais apporter, je me dépêche là, c'est la confusion mentale apportée par les drogues, des heures passées devant la télévision, les jeux vidéo, surfer sur l'Internet, regarder de la pornographie. La Bible dit que les gens s'abaisseront encore plus bas que les animaux par la faute de leur péché dans les derniers jours. La Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 1 et verset 3, « Sache ceci aussi, parle à Timothée, un jeune évêque, un jeune pasteur, que dans les derniers jours, des temps difficiles, des temps périlleux surviendront. » Et au verset 3, il dit, « Car les hommes seront incontinents, féroces. » Le terme grec, qui traduit « périlleux », ne se trouve seulement que dans un autre endroit dans le Nouveau Testament. C'est dans le récit de l'homme de Gadarène, possédé du démon. Hein? On dit qu'il était excessivement féroce. Et c'est le même mot, le terme « féroce », qui est identique au mot « périlleux », qui est utilisé dans 2 Timothée 3, 1, 3, 3. Le mot « chalepos », qui est un mot grec, signifie « dangereux et furieux », selon le dictionnaire Strong. C'est ça qui est utilisé ici. De plus en plus de gens deviennent dangereux, furieux et féroces aujourd'hui. On le voit. On a juste à regarder les nouvelles. Tous les jours, les journaux, les nouvelles, la télévision sont remplis de choses, d'hommes, de personnes, de femmes, dangereux, furieux et féroces. Un homme, une femme, c'est-à-dire de Fort Worth, Texas, une aide-soignante, elle prenait de la drogue, elle prenait de l'ecstasy. Et elle a heurté un homme avec sa voiture, puis elle est retournée chez elle avec l'homme dont la tête s'était encastrée dans son pare-brise. Elle a stationné sa voiture dans son garage, elle a refermé la porte. L'homme est resté là, la tête coincée dans le pare-brise pendant 3 jours. Il est mort, lentement, de la perte de son sang, évidemment. Et plusieurs fois par jour, cette aide-soignante-là, soi-disant, autrement dit, elle est sortie pour voir si l'homme était déjà mort. Là, après 3 jours, il était mort. Elle a mis son corps dans le coffre arrière de sa voiture. Elle l'a jeté dans un parc. Et là, le procureur du comté de Tarrant, au Texas, a dit ceci. Le mot « cruel » n'est pas assez fort pour ce qui s'est passé. Sans cœur, inhumain, peut-être que nous venons juste de redéfinir ce qu'est l'inhumanité. Excusez-moi. L'inhumanité. Et il faut se rappeler que cette femme-là était une aide-soignante, puis en plus de ça, elle se disait chrétienne. Aujourd'hui, on a des meurtriers qui tuent de sang-froid, qui se disent chrétiens. Frères et sœurs, un vrai chrétien n'agit pas comme ça. Il ne pense pas comme ça. Aujourd'hui, il ne faut pas prendre les drogues. Là, ça fait peur avec le fameux pote là, qui va être légalisé. Là. Là, vous allez me dire, oh, c'est... attendez, ouais. Prendre de la drogue, là, il est impossible de prendre de la drogue sans devenir comme un démon, excusez. Les personnes sous l'effet de certaines drogues peuvent devenir féroces, dangereuses, hors de contrôle. Et aujourd'hui, dans les rues, c'est-à-dire, sont remplies de gens qui sont sous l'effet de la drogue. Ils sont partout, même à la télévision, dans les films. J'ai une crainte des fois, puis si je m'arrête à ça, je paranoïerais. Qui est-ce qui me dit que le gars qui va me rencontrer en voiture, il n'est pas dopé à plage? Les films sont remplis de vampires, de zombies, de meurtriers, de tortures, de sang. Puis ça devient de pire en pire chaque année. Regardez le mois d'octobre, là. Les films de fous qui sortent. Notre société, elle devient aussi sanguinaire que les Romains dans l'Antiquité qui jetaient les chrétiens au lion, puis là, ils applaudissaient. Waouh, quel beau show! Une génération entière, c'est-à-dire, est maintenant sous l'influence du diable. Beaucoup de ces gens font tout pour influencer nos jeunes, surtout à ne pas fréquenter d'église et à prendre de la drogue. La Bible dit dans Actes 2:40, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » C'est-à-dire une génération qui est perdue, qui est mauvaise, qui est fausse. L'instabilité mentale et la férocité démoniaque de beaucoup de gens aujourd'hui sont un signe de la fin du monde. Mais nous, comme chrétiens, ne pouvons-nous pas discerner les signes des temps? Et le troisième point qui est final, la fin est proche à cause de l'augmentation du terrorisme dans le monde entier. Le Time Magazine a dit ceci, hein? C'est en 2002, mais pas longtemps après les tours qui ont été frappées. Une arme nucléaire de 10 kilotonnes pourrait détonner à New York. Il y avait peur de ça. Ça ne s'est pas passé. Mais 6 mois après le 11 septembre, l'Amérique était déjà dans un chaos désespéré pour essayer d'arranger un système qui était faussé avant qu'une autre catastrophe arrive. Quand on regarde ce qui s'est passé cette journée-là, c'est stupide. Comment est-ce que les gens n'ont pas réagi? Encore ça, beaucoup de détails dans le Time Magazine. Maintenant, nous sommes passés à l'offensive. La grande question est de savoir si nous l'avons fait à temps. Pourquoi? Parce que le terrorisme grandit. Et c'est la pire forme de guerre. Reuters, l'agence de nouvelles britannique, a donné un rapport effrayant intitulé « Des données montrent que le monde est inondé de matériaux nucléaire volé. » En ce moment-ci, l'Iran fabrique des armes nucléaires pour attaquer Israël. Qui est-ce qui va les arrêter? Frères et sœurs, on a besoin d'être à genoux et de prier que Dieu nous vienne en aide. Et regardons à quel genre de leadership que nous avons dans une situation aussi périlleuse qu'aujourd'hui. Faites dur. Trump, Trudeau, je ne fais pas de politique. Il faut censurer ce bout-là. Le monde va-tu partir en flamme dans une tempête thermonucléaire? Et la Bible dit dans Apocalypse 16, versets 8 et 9, « Et le quatrième ange versa sa fiole sur le soleil, et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une forte chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a pouvoir sur ses plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. » Quand Billy Graham était plus jeune, il a fait cette déclaration au sujet du prochain feu, accompagnant le jugement. Il a dit ceci, « Quand les prophètes parlent du feu dans le jugement du monde, ou quand Pierre mentionne le feu de la fin de notre âge, il n'est pas probable qu'il se soit référé au feu d'une combustion. Ce pourrait être le feu de la fission, le dégagement de l'énergie nucléaire par le dédoublement de l'atome. Certainement, ce sera un feu de jugement sur un monde de péché. Quand les extrémistes musulmans vont faire exploser des bombes nucléaires dans nos villes, ça va peut-être arriver avant l'enlèvement, et qui vont rendront ce que j'appelle littéralement nos villes comme des trous dignes de l'enfer. Si l'enlèvement n'a pas eu lieu, où est-ce qu'on va se cacher? Pour les non-convertis d'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, vous devez recevoir Christ comme votre Sauveur et le Seigneur de vos vies. Si vous ne voulez pas passer à travers ces choses-là, vous devez faire partie d'une église locale, une église qui croit et qui enseigne la parole de Dieu. Aucune personne non convertie est préparée au feu que Dieu enverra sur la terre lors des grandes tribulations. Ça, c'est après l'enlèvement. Et le seul salut pour chacun de vous est de croire en Dieu. C'est pas marcher le chemin de Compostelle, ça. C'est un acte de foi. Hein, c'est comme un enfant, je le prends souvent cet exemple-là, mais je trouve qu'il est tellement approprié. Il est debout sur une table. Puis toi, comme papa, tu leur dis, saute dans mes bras. Et sans poser de questions, l'enfant saute. Parce qu'il sait que l'autre bord, tu vas l'attraper. Mon frère, ma soeur, mon ami, saute dans les bras de Dieu. Il va t'accueillir. Il ne te laissera pas tomber. Soyons absolument certains de la certitude de notre salut. Et je parle à ceux qui se disent chrétiens, mais que leur vie n'a pas changé. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans le bon chemin. C'est pourquoi je termine en disant ceci. On doit venir directement à Jésus-Christ. Celui qui est le médiateur, celui qui est dans le milieu entre l'homme pécheur et le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus-Christ est mort d'une mort horrible sur la croix pour payer le prix de notre péché. C'est le salaire qui a été payé. Il a versé son sang. On a prié, on s'en est souvenu tantôt. Son corps a été meurtri. Mais il est ressuscité des morts. Ça, c'est la bonne nouvelle. Puis il nous promet la même chose à tous ses enfants, tous ceux qui l'acceptent comme étant leur sauveur et le Seigneur de leur vie. Inquiétez-vous pas. Lorsqu'on demande à Dieu de nous diriger, parce qu'on n'est pas meilleur qu'un autre, nous autres, là. On se dit chrétien, mais on n'est pas meilleur qu'un autre. On a besoin de Dieu totalement. On a besoin du Seigneur totalement. Donc, la même chose, si ce matin, tu n'es pas un croyant, puis que, ou bon, ta foi n'est peut-être pas encore rendue là. C'est pour ça que je te dis, saute. Saute dans les bras du Seigneur. Et lui va faire le reste. Comme enfant de Dieu, soyons certains que nous allons être en sécurité lorsque le jugement viendra. Évidemment, après l'enlèvement, on va être avec le Seigneur pour toujours. Mais pour ceux qui vont rester, le salut va être seulement au prix de leur vie. Parce qu'il y a des gens qui vont être sauvés après dans les tribulations. Mais ça va coûter leur vie. Faisons confiance à Christ. Faisons-le maintenant, pendant qu'il est encore temps. Amen.
veux bien commencer, je vais vous apprendre, s'il vous plaît. Pour ceux qui nous visitent, si vous ne savez pas, si vous êtes sentez bien à l'aise de laisser passer le panier pour les offrandes,